C'est la deuxième heure de ce 1227e Sweet Home Chicago et en deuxième heure de l'harmonica pour tous. Philippe Géan est harmoniciste, guitariste, chanteur, professeur de musique et à présent écrivain. Il nous propose une superbe méthode intitulée Harmonica Blues aux éditions Jean-Jacques Rébillard. Avec passion et gourmandise, Philippe Géan évoque ses premiers héros, les artistes qu'il aime aux États-Unis et en France, les différentes formations dans lesquelles il a évolué, la jeunesse de cet ouvrage qui s'adresse à tout le monde. Grands débutants ou harmonicistes confirmés trouveront leur bonheur et apprendront à leur rythme grâce à une pédagogie par l'exercice et des dizaines de trucs exposés de façon attrayante. Ce livre référence Harmonica Blues n'oublie pas anecdotes, partitions, discographie sélective, technique, histoire, théorie, tout ça avec une touche d'humour, une iconographie riche dans une maquette stimulante et aérée. Avec passion et culture, Philippe Géan partage son univers avec vous, une interview ponctuée de multiples extraits musicaux éclairant son propos. Harmonica Blues est un must à acquérir d'urgence. L'invité du jour dans Sweet Home Chicago, c'est Philippe Géan. Bonjour Philippe, ça va ?
Bonjour, ça va, merci.
Eh bien écoute, très heureux de te recevoir à nouveau. Ça faisait déjà un bon petit moment que tu n'étais pas passé dans l'émission. Et on va parler harmonica. Donc ceux qui aiment que la guitare pouvaient tourner le bouton. Non, on va parler musique, on va parler blues, on va parler bien sûr harmonica. Et puis de toutes tes expériences musicales. Et puis aussi et surtout de ce fameux livre que tu viens de sortir il y a quelques semaines maintenant qui s'appelle Blues Harmonica aux éditions Jean-Jacques Rébillard. C'est bien ça ?
C'est ça.
Et ce livre-là qui va nous occuper une petite partie de l'interview tout à l'heure va s'adresser, allez, disons-le maintenant, pas forcément aux harmonicistes chevronnés ou même débutants, mais carrément aux grands débutants. C'est-à-dire qu'on peut appréhender, c'est vraiment une première question par rapport à ce livre, Philippe, on peut appréhender ta méthode si on n'a jamais touché un harmonica de sa vie, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai, on démarre vraiment à la base. À la base, je conseille même le type d'harmonica qu'il faut acheter. Et puis je guide petit à petit, pas à pas, avec les exercices les plus simples, la respiration véritablement. Et puis on avance. Et puis c'est vrai que c'est axé sur l'harmonica blues. On a mis sur la couverture du grand débutant ou à l'amateur éclairé. On va assez loin quand même dans la pratique. Et puis je me suis donné comme objectif de faire en sorte que la personne qui ira jusqu'au bout du bouquin aura peut-être suffisamment de clés pour ensuite voler de ses propres ailes, en tout cas pourra trouver les infos et continuer.
Et construire sa propre carrière, pourquoi pas, hein. Voilà. On est tous un harmoniciste en devenir, si j'ai bien compris.
C'est ça.
La philosophie du livre. On va commencer d'abord, Philippe, par ta mise à la musique. Je crois que quand tu étais petit, tu avais déjà un papa chanteur à la maison.
Oui, c'est ça. Ouais. J'ai grandi dans une maison où on écoutait peu de musique, mais où mon père chantait, ouais, des vieilles chansons traditionnelles, beaucoup de chansons en normand. C'était une pratique un petit peu à l'ancienne, la chanson qu'on partageait. Puis j'ai eu la chance d'avoir un grand frère fou de musique. Alors, 6 ans d'écart quand on est ado, c'est énorme. Et le grand frère s'est mis à la guitare, et puis le grand frère ramenait les disques de Pink Floyd et beaucoup de pop rock britannique et américaine. Et moi, j'ai très vite, arrivé en 6e, j'écoutais beaucoup de musique.
Alors, ces musiques qui t'ont bercé, elles ont été un petit peu multistyles. Tu viens d'évoquer Pink Floyd, mais alors on pourrait aller citer une trentaine d'artistes, tous différents les uns des autres et dans des styles différents. J'ai l'impression que d'une manière générale, Philippe, tu appréhendes les différents styles musicaux sans forcément les hiérarchiser, c'est ça ?
Non, pour moi, c'est très curieux. Enfin, c'est ma manière de fonctionner, mais j'ai besoin de musique et j'ai besoin de toutes les musiques, en fait. Je trouve de l'émotion, je trouve du plaisir à écouter des genres très différents, à des moments différents, à des périodes différentes. Et moi qui joue de l'harmonica, je joue un peu de guitare, je chante et j'aime bien toucher à plusieurs styles. Je crois ressentir, j'ai bien du mal à mettre des mots là-dessus, mais je ressens un lien entre tout ça. Mais voilà. Après, j'étais plutôt porté vers les musiques anglo-saxonnes, pop, rock, et puis Americana au sens large du terme. Mmh. Voilà, c'est plutôt ça ma tasse de thé.
Et il m'avait semblé qu'au niveau de la découverte de l'harmonica, il y avait un certain Hugo Frey qui n'était pas loin de ça. On va écouter cet extrait musical que je t'ai préparé. Allez, en 1981, ça s'appelait Mes vieux trucs de cow-boy. C'était un 45 tours, mais j'imagine qu'il figure sur une compilation, même de l'époque. Hugo Frey, qui n'était pas ni un bluesman, ni un pur folkeux, ni un chanteur français, on va dire, engagé, forcément. Mais c'est pas cette chanson et c'est pas non plus l'artiste qui t'a le plus engagé, c'était l'harmonica.
C'est ça, en fait, tu me fais plaisir parce que je pense que j'ai pas écouté ça, entendu ça depuis fort longtemps. Ce morceau figure sur un album formidable qui est sorti en 81, un album dans lequel Hugo Frey reprend du folk américain, de la country, de trois blues, du Hank Williams, du Cajun, toujours dans des versions françaises qui sont vachement bien d'ailleurs. Il y a notamment une version de You Never Can Tell de Chuck Berry qui est extraordinaire. Et en fait, moi j'ai vu, je vais éteindre la télé et puis là j'entends ça. J'entends ça. Et moi qui aimais la musique, moi qui jouais un petit peu l'harmonica, mais j'avais un trémolo, j'essayais de faire 2-3 petits airs traditionnels, je savais pas. Et là, j'ai entendu ça et j'ai eu un coup de foudre, un véritable coup de foudre.
Et là, t'as vu, le solo, il dure une grille, hein, c'est super court.
Ça suffit.
Alors, j'ai essayé de chercher quand même, j'ai passé un petit moment, j'ai pas réussi à retrouver le nom des musiciens qui figurent sur ce titre en particulier. Tu connais le nom de l'artiste?
Oui, c'est John Ratican, John Constantine Ratican, l'harmoniciste. C'était, je crois qu'il était lié à la famille de Gaufret à l'époque, et c'est un harmoniciste américain qui a disparu ensuite. Il y avait des beaux noms, il y avait Christian Séguret dans ce groupe-là, il y avait des grands noms du bluegrass et du folk français.
Est-ce que c'est l'écoute de ce titre particulier de Hugo Frey qui t'a mis le pied à l'étrier pour la folk, pour toutes ces musiques américaines?
Voilà, alors je connaissais un petit peu ce monde-là, un petit peu avant. Mon frère écoutait des choses comme ça, mais je n'avais pas vraiment compris. J'étais jeune, hein, j'avais 14 ans. J'étais plus dans les trucs plus électriques, en fait. Hein. J'étais dans des choses un petit peu... Donc, je parlais de Pink Floyd, mais j'écoutais beaucoup de rock de ce style-là. Et là, ce son-là... En fait, je pense que j'avais entendu ça dans les westerns et que j'ai fait le lien entre ce que j'avais entendu dans les westerns
très,
et puis
très visuel comme chanson, effectivement.
Une musique vivante avec des instruments acoustiques. J'avais écouté un petit peu de banjo déjà, je savais deux, trois trucs, j'avais quelques repères. Mais c'est vrai, ce son d'harmonica, en fait, d'entrée de jeu, c'est vraiment un coup de foudre amoureux. Je me suis dit, je veux savoir faire ça, je vais savoir faire ça, et c'est là que les problèmes ont commencé.
Il y a eu des découvertes, donc le folk, on vient d'évoquer, la chanson, bien sûr, le rock, le gospel, et petit à petit, la rencontre avec l'harmonica. Je crois qu'un certain Larry Adler n'en est pas tout à fait étranger, d'ailleurs.
Ben, j'avais un 33 tours de Larry Adler.
Ouais.
Ouais, j'avais un 33 tours, c'était un oncle qui nous avait donné ça. C'était que des grands, un tour du monde, des mélodies populaires. Super mais
c'est,
disque.
C'est d'ailleurs. Un super disque, mais déjà assez ancien. Larry Adler est né en 1914.
Oui.
Il est décédé en 2001. C'était un pionnier, lui.
C'est peut-être, il jouait de l'harmonica chromatique. Et l'harmonica chromatique, c'est les années 1920 à peu près. Et Larry Adler est très vite devenu un des plus grands virtuoses et est resté pendant très longtemps le plus grand virtuose de chromatique. Donc un jeu complètement différent, c'est pas l'harmonica country blues, mais ce son me plaisait malgré tout.
Revenons brièvement sur Hugo Frey. Lui, il est toujours là, par contre, il est en 1929, 95 ans cette année, quoi. C'est hallucinant. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'il continue à donner des concerts et qu'il ne comprend pas que les autres, ils arrêtent à 65 piges parce qu'ils sont lavés, quoi. Et lui, il l'a dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, il revit une nouvelle carrière depuis quelques années. Enfin, je ne sais pas, 42 ou 43 ans après avoir découvert ce morceau. Toi, Philippe, qu'est-ce que ça t'évoque, cet exemple, finalement?
C'est phénoménal parce qu'avec le recul, je trouve ça complètement ahurissant. À l'époque, j'aurais jamais imaginé, et d'une, que j'allais jouer de l'harmonica, et de deux, que j'allais finir par écrire, enregistrer, et de trois, encore moins, écrire une méthode.
Et enseigner
l'harmonica, et sûrement pas que Hugo Frey allait continuer à jouer si longtemps. Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'aimerais bien aller le voir en concert, et puis pour lui dire à quel point il m'a aidé.
J'imagine que tu seras pas tout seul à lui dire ça, d'ailleurs, à la séance d'autographe, parce qu'il a mis plein de gens à l'étrier.
Oui, puis... mais en fait, je pense qu'il a regardé avec un petit peu de condescendance, peut-être, par pas mal de gens, mais c'est typiquement le genre de musicien qui a permis à la musique américaine de se faire connaître en France. Et puis, il a honnêtement écrit de très belles mélodies. Et puis, ses versions, comme je le disais tout à l'heure, il a des versions françaises de morceaux américains qui sont très chouettes. C'est très bien écrit, bien traduit, c'est vraiment bien.
Alors, sur les différents noms, on a évoqué Hugo Frey, on a évoqué Larry Adler. On pourrait également parler d'une autre rencontre que tu as faite lors de tes pérégrinations, tes voyages. Je crois que tu en es à 3 ou 4 continents différents, et notamment l'Australien Chris Wilson. C'est quelqu'un qui t'a touché?
Oui. Là, il m'a mis par terre, cet homme-là. Je ne connaissais pas du tout. J'ai eu la chance de passer un mois à Sydney. Et puis, Chris, je suis allé dans un club, vraiment typiquement un club de motards, comme on en voit dans les films. Donc beaucoup de bière, une scène, un gros volume, un groupe sur scène et puis que des gens en cuir avec des grosses Harley Davidson devant. Très sympa au demeurant, hein, y a aucun souci. Et je vais voir ce gars-là, j'avais vu une photo, il chantait, jouait l'harmonica et je suis tombé par terre parce que j'ai rarement vu un artiste habité à ce point-là. C'est-à-dire que c'était un chanteur de blues, blues rock, assez rock, avec une voix magnifique, un type torturé, complètement, vraiment habité par sa musique. Et à un moment, il a fait une version d'une chanson qu'avait popularisé Rory Gallagher, Out on the Western Plains, et sa version guitare, chant, harmonica. Il a obtenu le silence pendant de très longues minutes. Tout le monde s'est tu.
Alors qu'on est dans un bar.
On est dans un bar plein de bikers.
Avec ça veut dire qu'on discute, ça veut dire qu'on trinque, ça veut dire qu'il y a toujours un brouhaha
phénoménal. Et là, petit à petit, tout le monde s'est tu. Et à la fin, comme dit Hank Williams, ça pleurait dans les bières. Hein. J'ai jamais vu ça. Et moi, j'étais retourné, il m'a sidéré. Et ce gars-là est décédé il y a quelques années. Il n'est pas très connu, il n'est pas connu hors d'Australie. Il était assez connu en Australie. Ouais. Oui, il fallait qu'il se bagarre contre des démons divers et variés, malheureusement. Mais c'est un grand artiste.
Philippe Géhan, tu as des harmonicistes de chevet. Tu en parles d'ailleurs dans ton livre Blues Harmonica, on va l'évoquer tout à l'heure. Mais tes harmonicistes blues favoris, puisqu'on est dans le blues quand même, c'est si on pense d'abord à une influence blues, je parle du côté des pionniers, du côté des Ricains, on parlera des Français tout à l'heure, à qui tu penses en premier?
D'entrée de jeu, c'était Sonny Terry. Ouais. Je comprenais rien du tout et je comprends toujours pas grand chose d'ailleurs, mais Sonny Terry, seul et unique. Et j'ai eu la chance de voir Sonny Terry en concert au festival de Ris-Orangis avec Brandy McGee. J'étais tout jeune, je venais de commencer, hein, donc j'étais à milieu de penser. J'allais continuer à jouer à ce point-là, mais je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir. Sonny Terry, parce que j'aime beaucoup le côté folk, justement. J'ai très, très sensible au côté country blues folk. Et puis ensuite, c'est Sonneable Williamson 2. Rice Miller, ouais, c'est vraiment les chansons, la qualité de la manière dont il mêle le chant et puis l'harmonica, le son, la plainte, ça c'est extrêmement, ça m'a toujours touché. Puis évidemment, je suivais les conseils, des recommandations, donc j'écoutais Little Walter que j'aimais beaucoup et à la limite, je pense que j'apprécie peut-être plus que je ne l'appréciais à l'époque Little Walter.
Chromatique.
Non, parce qu'il y a un son peut-être différent, plus électrique. Peut-être que j'étais plus sensible au son acoustique. Peut-être que le style... c'est marrant, quand j'ai débuté l'harmonica, ce son 50s, Chess, j'ai l'impression, avait peut-être un petit peu moins la faveur du public qu'il l'a aujourd'hui. Il y a eu un retour du son très roots, un peu garage, un peu sale des années 50, qu'aujourd'hui j'adore et j'aime énormément, clairement. C'était évidemment, c'est les noms les plus classiques, hein, c'est les grands noms, mais c'est évident et qu'on continue de les citer comme les grandes références.
Il y a, selon toi, là encore on reste aux États-Unis, il y a une relève côté harmonica blues.
Ah ouais, il y a toujours eu. J'ai toujours toujours entendu des harmonicistes passionnants, et dernièrement j'ai l'impression que j'en ai découvert encore plus que jamais. Moi j'ai beaucoup aimé Billy Branch. Billy Branch, qui a proposé un blues plus moderne dans un style d'harmonica qui n'était pas un copier-coller de ce qui se faisait avant. Il y a énormément de gens qui jouent extrêmement bien l'harmonica, mais je peux leur reprocher des fois d'être convaincant, d'être plein de sincérité, mais des fois j'entends peut-être un petit peu trop le modèle. Je pense que c'est pareil dans tous les instruments, en fait.
Trop le modèle ou trop la technique pour la technique?
Non, bah pour les modèles, des fois, les références à Big Walter, d'accord, à Little Walter. Alors j'entends, ouais, des harmonicistes, j'adore, hein, j'ai beaucoup de plaisir à les écouter, et puis ils jouent merveilleusement bien, mais des fois je suis séduit par des harmonicistes qui... Je pensais à Billy Branch, qui lui a amené
son style personnel. Oui.
Personnel. Il y a quelqu'un dont je suis extrêmement, extrêmement fan, pas très connu, mais c'est Paul Delay. Paul Delay, ouais, Diatto et Diatto et Chromatique, et d'accord, c'est un harmoniciste extraordinaire qui est malheureusement mort aussi, il a fait problème de drogue et tout ça, mais qui a fait des albums, c'était un chanteur hors du commun, un type de Portland, je crois, mmh, dans le wagon. Mmh. C'est des harmonicistes, des artistes comme ça qui ont une patte, j'aime bien quand il y a une patte personnelle, quoi.
Mais oui, tu parles de Paul Delay, on peut citer William Clark aussi, pourquoi pas, hein, on est dans la
extraordinaire.
Même école, c'est un peu l'école, George Smith.
Ouais, c'est les harmonicistes de la côte ouest, en effet. Mmh. Très swing, avec beaucoup de chromatique, bien souvent.
Mmh. Alors l'harmonica, Philippe, bien sûr, mais également la guitare, et puis les percussions, enfin, on va parler des différents groupes dans lesquels tu t'es produit, et dans lesquels tu continues à te produire, donc tu ne fais pas que de l'harmonica, tu chantes également,
oui,
tu joues de la guitare. Tu pourrais faire le Rémi Brica ou le Philippe Ménard.
Je joue des fois tout seul,
ouais,
sous le nom de Soufflant Manchot.
Si que tu te maries avec une jolie fille, c'est dans le grand danger, ça va te la voler. Oh, pas nous avoir, non pas du mariage, toujours en regrettant le joli temps passé.
Et je porte harmonica, guitare, j'adore ça. La formule folk.
Soufflant Manchot aussi avec le banjoiste.
Oui, quelquefois avec le banjoiste Xavier Marie, bien souvent. Puis quelquefois tout seul. Ça m'arrive souvent. On a monté ça pendant le confinement. Puis on a développé notre formule. Et puis c'est devenu. On a un répertoire à la croisée des routes, hein, Americana, folk, avec pas mal de choses cajun. J'aime bien la musique cajun parce que justement on a la croisée des musiques américaines et puis d'un héritage francophone.
Bien sûr.
Ça me plaît beaucoup parce qu'on peut chanter en français, mais une musique qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Ça me plaît beaucoup.
Une autre formation avec laquelle on t'avait vu il y a déjà quelques années, c'est Les Hommes Tranquilles. Je crois que ce groupe n'existe plus.
Non, ça n'existe plus depuis longtemps, mais ça a été une superbe période. Ça, c'était un groupe de chansons. À l'époque, on appelait ça le Java Rock, je pense. Mmh. Bon, je joue plus ce genre de style, ce style de musique, mais ça a été on a fait deux albums dont je suis très content. Beaucoup de concerts, un groupe du Cotentin qui jouait dans des ambiances de bord de mer avec des compositions. C'est moi qui écrivais le répertoire, en fait. Ouais. J'ai vécu de beaux moments. On a même participé au tournage d'un long métrage avec ce groupe. On a vécu des moments super, ouais.
Deux autres formations dans lesquelles tu te produis toujours. Tu viens d'évoquer Soufflant Manchot, mais également Bam Bam Tikili, ouais, bien sûr. Et puis Tupelo Music Club.
Get there while I still can.
Archipelo Music Club. Là, tu mènes une carrière donc, de musicien avec ces trois formations en parallèle, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. J'ai toujours eu envie de jouer avec plusieurs formations différentes. Et puis, il y a des raisons économiques qui nous poussent à avoir plusieurs groupes.
Oui.
Très compliqué quand on est musicien à temps plein d'avoir un
solo. Ou ta formule en duo ou en solo.
Voilà,
parce
c'est ça.
Que pour les petits lieux, c'est quand même
voilà,
plus
c'est
adapté.
Ça. Puis il y a des groupes qui ne pourront pas jouer souvent en raison de disponibilité de certains musiciens. Donc on joue Tupelo Music Club, c'est le cas. C'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est une bande de potes qui veulent rendre hommage au pub rock, à la Dr. Feelgood. Mmh. Ça me plaît beaucoup. Ça. Et puis Bam Bam Tikilik.
Fatigué, zomma fatigué. Fatigué, petit femme fatigué. Fatigué. Fatigué.
Bam Bam Tikilik, c'était l'aboutissement d'un vieux rêve, c'est croiser les musiques de l'océan Indien, puis de la musique cajun, puis du blues. Et c'est une rencontre qui a permis de donner corps à ça.
Tropical Garage.
Ouais, Tropical Garage.
c'est le nom générique de cette musique que vous avez créée de toutes pièces en prenant des influences du monde entier finalement.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un guitariste chanteur qui a passé 15 ans à La Réunion, qui a appris Maloya Sega, qui chante en créole.
Mais La Réunion, c'est vraiment une île qui porte vraiment bien son nom, franchement. Hein?
Ça,
tout est là-bas.
Clairement. Vous aimez la musique, allez à La Réunion et puis oubliez le reste du monde. J'ai entendu dire là-bas que c'est le département français où il y a le plus de groupes de musique au nombre d'habitants. Et en fait, j'ai oublié le chiffre, il y a un nombre phénoménal de groupes semi-professionnels en mesure de donner des concerts de 2 heures. C'est hallucinant, ouais. Il y en a des centaines et des centaines. C'est complètement.
Et donc
fou.
Ça joue partout du lundi.
Ça joue partout. Mmh. Et puis ça joue bien, tellement bien.
Philippe Jehan, donc musicien, on l'a compris, chanteur, harmoniciste, guitariste, percussionniste, et puis également tu as fait pas mal de collaborations. Moi j'ai établi une petite liste parce qu'il y a plein de gens, mais vraiment divers et variés, avec qui tu as pu te produire, soit sur scène, soit pour des enregistrements. Tu as fait une collab avec Ed Charger, tu as été invité de Mes Souliers Sont Rouges, tu as travaillé avec Patrick Verbeek. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur Patrick Verbeek? Parce que ça, c'est quelqu'un, c'est le monsieur, hein, quand même.
C'était quel honneur.
T'es triste ou net, un peu chiffon, mais t'es jamais à l'abandon. Tes cheveux couleur bourbon, tes ongles vermillon, ça en dit long. Tu rames de colère en galère, ça t'a marqué le caractère. T'as le Stetson de Stevie Ray, les Ray-Bans de John Belushi, c'est quoi ta vie? Lady, quand tu souris, bluesy lady, je vais au tapis.
J'étais fan quand j'étais jeune, et puis il a toujours aimé l'harmonica, Patrick. Toujours de l'harmoniciste sur ses disques.
Baco, si tu nous écoutes.
Baco,
hein, voilà.
Cher ami Baco. Il avait bossé avec Vincent Boucher, il a bossé avec Mox Goland, il a bossé avec Benoît Blueboy, etc. Et en fait, j'adorais tous les disques de Patrick, et puis je l'ai d'abord croisé, rencontré en festival, en Bœuf, grâce à Baco d'ailleurs, et Jazz sous les Pommiers, la première fois. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner sur un Jazz sous les Pommiers avec un groupe recruté en Normandie, avec le regretté guitariste Serge Lelièvre, dit Lapin, à Grandville.
Lapin, bien sûr.
Il monte un groupe autour de Patrick.
Grand pote de Christian Joubert et Nadine.
Voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai croisé, ça m'est arrivé de... Ils tournaient en trio, Patrick, Baco et Claude Langlois. Alors, quelquefois dans les petites salles, ils venaient dans le coin, puis ils étaient que deux parce qu'il n'y avait pas le budget. Alors je me retrouvais des quelquefois.
Tu remplaçais Baco ?
Très modestement, ouais. À faire deux trois morceaux à la place de Baco, et c'était un vrai bonheur. Et Patrick a été toujours. J'ai eu la chance de, quand j'ai fait des études d'anglais, j'avais écrit un mémoire de maîtrise sur le blues anglais, et c'est à l'époque où je les voyais de temps en temps, donc j'avais donné un exemplaire à Patrick. Qui était un passionné aussi d'histoire de blues, un grand spécialiste.
Ah ben complètement, puis rappelons qu'il a accompagné Vince Taylor pendant quelques années.
Et oui,
pas rien. Patrick Verbeek, voilà, avec qui tu t'es produit. Également, un autre, il y a un groupe de la Manche qui va bientôt arrêter sa carrière, je crois, c'est Hot Rod 56.
Ouais. Hein ? I don't need drugs, I don't need the bits, I just want to be all alone, everything. Come back to me, come back to me, come back to me, you're the city. Come back to me, back to me, back to me.
Hot Rod 56, c'est fini ça ?
Bah c'est terminé, 18 ans quand même.
Ouais.
Je crois que c'est ça, 18 ans. Belle carrière, beaucoup beaucoup de dates, et le 24 février...
Avec des invités ?
Avec des invités, des cuivres, 6 cuivres quand même. Et puis ma pomme, harmonica, guitare acoustique de 3 chansons. Ouais, les Hot Rod 56, c'est un des groupes les plus convaincants que j'ai jamais croisé, j'ai pu voir en France pour ce son 50s.
Ouais, moi, je suis persuadé qu'ils vont renaître de leur cendre, de toute façon. D'autres artistes avec qui tu t'es produit, alors on parlait d'une liste diverse et variée, il y a Dom Ferrer. Whirlwind dancing like a snake in the sky. Whirlwind dancing like a snake. Friend, don't you let another day go bad. Shaking like your heart might break. Dom Ferrer, lui qui nous vient de l'est de la France, mais qui habite pas loin d'ici, du côté de Condé, en Normandie maintenant.
Ouais, c'est ça.
Avec qui tu as travaillé. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble avec Dom ?
Bah, en fait, Dom, il fait une musique qui me plaît énormément, parce que lui, il est à croiser des chemins aussi.
Ouais.
Americana entre Tony Joe White,
J.J.
Cale et tout ça, country, blues et rock. Et
il va régulièrement à Tulsa.
Il va tous les ans à Tulsa. Et en fait, il a eu un duo à une époque, il y a longtemps, Dom, et puis il avait très envie de remettre sur pied une collaboration acoustique comme ça, enfin une petite formule, et voilà, donc on s'est rencontrés, on s'est bien entendus, et j'essaie de colorer ses chansons avec un petit peu d'harmonica. Alors on va jouer régulièrement tous les deux, ouais, on va collaborer, on continue à collaborer.
Et Philippe, tu t'es produit avec une fée également, une instite qui crée des livres pour enfants et des spectacles, qui s'appelle Paquita.
La fée Paquita.
Ah, la fée Paquita. Comment est née cette rencontre-là ? Parce que là encore, ça pourrait passer même pour insolite.
Oui, bah en fait, c'est les rencontres de studio.
Ouais.
Il y a besoin d'harmonica. Elle a enregistré plusieurs albums à Caen avec Isaac Azoulay à mélodie. Jean-Eudes Solignac Lecomte et Isaac Azoulay. Donc j'ai eu la chance de colorer des morceaux avec un petit peu d'harmonica.
Jean-Eudes qui joue de la batterie avec Bam Bam Tikelic.
Lui-même.
Hein, c'est ça. Pour résumer tout ça, Philippe, moi je pense que tu parlais tout à l'heure de la Louisiane, effectivement, mais qu'est-ce qui va, au niveau influence, résumer véritablement tes goûts musicaux et ce choix de vie que tu as fait ? Est-ce que c'est la Louisiane ou est-ce que ça passe pas un petit peu de temps en temps par l'Irlande ?
Oui, alors entre les deux, mon cœur balance, cher ami. Des fois, c'est un peu compliqué, mais je trouve des liens malgré tout. Il y a des groupes de Louisiane aujourd'hui qui mêlent Zydeco, musique cajun, avec une énergie rock que j'aime énormément. Il y a un groupe qui s'appelle Feu Follet, qui n'est pas très connu, mais que j'aime beaucoup. Il y a un groupe qui s'appelle The Revelers, que j'adore aussi.
Dont tu as repris l'un des morceaux, Feu Follet.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est des gens que j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, quand j'étais jeune, je trouvais que les Pogs, c'était le groupe qui, pour moi, symbolisait tout ce que j'aimais. C'était l'énergie du rock'n'roll, des instruments acoustiques, une tradition derrière, mais renouvelée et revisitée. Voilà, ça c'est pour les racines mélangées. Et puis, pour ce qui concerne le blues, moi j'étais très très fan de la scène. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais la scène londonienne et la scène anglaise de blues rock et pub rock. Donc j'adorais Nine Below Zero, j'adore toujours. J'adorais Dr. Feelgood. Puis je trouve que dernièrement, la scène blues américaine est peut-être plus variée, plus passionnante que jamais. Je ne cesse de découvrir tous les jours des phénomènes. Puis les groupes ont des identités, des sons, ils assument complètement. Il y a des choses magnifiques. Alors franchement, c'est sans fin.
Tu fais partie des invités de l'émission qui eux aussi pensent que la scène devient de plus en plus foisonnante et également montante au niveau qualité, parce qu'il n'y a pas que la quantité de musiciens, de groupes qui se produit, mais il y a également, notamment en France, un regain de qualité depuis 20-25 ans. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais
j'en suis d'accord
aussi
avec toi.
Ouais.
Ah oui, complètement.
Ouais.
Quand je voyais les gars de Freaky Buds là, qui est enregistré en Californie il y a 10 jours. Là.
Salut Max, salut Thomas, salut tout le monde. Ouais, franchement,
copain Thomas, tous ces groupes-là, mais c'est extra. Ils ont le son, ils ont l'attitude. Peut-être que pendant un temps, il y avait d'excellents groupes en France, mais peut-être que des fois ça pêchait un petit peu dans le son, peut-être dans l'anglais, j'en sais rien, des choses comme ça, je sais pas, c'était peut-être... alors que, ceci dit, je joue une petite parenthèse, j'adore le blues chanté en français. Mmh. Et quelquefois, peut-être je préférerais d'ailleurs, quand c'est que ça soit clairement assumé comme tel. Mais non, la scène blues aujourd'hui, européenne, partout, enfin, il y a des... Je suis complètement stupéfait par la qualité, le son de groupes qui émergent, et les gars, ils ont 20 ans, et ils ont l'impression qu'ils ont tout compris, quoi, tout est là, quoi.
Philippe, pour revenir sur tes autres activités, on a évoqué les groupes dans lesquels tu t'es produit, dans lesquels tu continues à le faire, les collaborations, mais également d'autres activités, pas de groupe, mais autour de la musique, avec notamment des génériques pour France 3 Normandie. Lesquels, dis-moi?
Oui, j'avais fait le générique d'une émission qui s'appelait Vue sur mer, qui est devenue Littoral.
D'accord.
Et puis j'avais fait de la musique aussi pour des petits bouts de musique, pour des petits passages entre des émissions, des tout petits.
Des petites virgules musicales.
Ouais, virgules musicales, ce genre de choses. Voilà. Et puis. J'ai eu la chance de collaborer sur un film une fois et de proposer aussi des bouts de chansons pour un long métrage, ce genre de choses.
Lily et le Baobab, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais. Avec Roman Boringer. Ça, c'était chouette.
Et, ouais.
Et puis aussi pour des documentaires, j'ai des amis réalisateurs qui réalisent des documentaires. Donc fournir une chanson, on l'a fait avec Bam Bam Tikilik à l'automne dernier, une chanson par documentaire sur le... quelque chose qui est assez peu connu, mais qui peut intéresser, qui va intéresser, j'en suis sûr, les passionnés de blues. Le fait qu'en Normandie, les ports normands ont eu un très très grand rôle à jouer dans le trafic des esclaves. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le deuxième port qui s'est le plus enrichi en France avec le trafic d'esclaves, après Nantes, c'est Le Havre.
C'est Le Havre, ouais.
Et sûrement pas un port de la côte atlantique. Ouais.
Ouais.
Donc il y a un documentaire merveilleux sur le sujet. Et on a fait la musique avec... Et j'aime bien, c'est intéressant, ça, c'est une autre manière de travailler en collaboration avec un réalisateur, c'est passionnant ça.
Tu as également créé une association culturelle qui s'appelle Harmonica Mundi, c'est comme ça qu'il faut dire ?
Mundo.
Mundo. Mundo, oui, ouais. Alors justement, pourquoi je me suis trompé ? C'est parce que j'ai fait le lien, j'imagine que Harmonia Mundi,
voilà.
C'était le point de départ. Harmonica Mundo, voilà.
Voilà, voilà, tu y es, t'as trouvé.
C'est ça.
Je suis découvert.
C'est le pendant. Et donc, tu es prof depuis un petit quart de siècle maintenant, ça ne rajeunit pas. Bah, prof d'harmonica et que harmonica, pas de chant, pas de guitare.
Non,
vraiment spécialisé dans l'harmonica.
Je suis un guitariste qui accompagne ses chansons, mais je suis un guitariste rythmique tout à fait modeste. Oui, j'ai commencé à donner des cours d'harmonica à Cherbourg. Maintenant, je suis à Caen depuis un moment. Je donne des cours à Caen. J'aime beaucoup en grande partie grâce à l'échange, à cause de l'échange, en fait, avec les gens que je rencontre, en fait. Mmh. Ça m'intéresse beaucoup, ça me plaît beaucoup. Essayer de les aider, puis leur donner envie de continuer. Voilà, échanger.
Et alors, justement, ça t'a donné l'idée, l'envie de créer cet ouvrage qui s'appelle Blues Harmonica, qui est maintenant arrivé, qui est disponible depuis plusieurs semaines. J'ai vérifié, on peut le trouver un petit peu partout. Je voulais te demander d'abord, Philippe Géhan, pourquoi la création de ce livre ? Est-ce que ça comble un vide, selon toi ? Ou est-ce que ça nourrit une envie, tout simplement, de partager ?
Ça nourrit une envie, c'est né d'une rencontre. Hein. Les éditions Rébillard ont changé de... Malheureusement, Jean-Jacques Rébillard, qui avait
décédé
les éditions,
en 2022,
est décédé il y a quelques années. Et en fait, ses enfants ont vendu les éditions à...
D'accord.
Un musicien qui s'appelle Thomas Hamieux, qui est un musicien savant, qui travaille dans la musique depuis très longtemps, mais qui est un spécialiste de la guitare picking. Il est notamment collaborateur dans différents magazines de guitare, type Guitar Parts, Guitar Magazine, ce genre de choses.
Qu'avait créé justement Jean-Jacques Rebillard.
Oui,
semble.
C'est vrai.
Ah.
Oui, ça doit être. Oui, tu
je crois
raison,
que c'est lui qui est à l'origine de.
C'est
on vérifiera, il me semblait.
Ça doit être
avoir
ça.
Vu passer ça.
Et en tout cas, Thomas écrit des méthodes de guitare, guitar picking
guitar
et
collector
autres,
aussi.
Et donc, il a repris l'édition et il m'a proposé, parce qu'en fait, chaque édition a ses instruments à différents niveaux pour plusieurs propositions. Il existe des méthodes d'harmonica formidables que j'aime beaucoup et que j'ai utilisées et que je conseille jusque-là, j'ai toujours conseillé à mes élèves. Et en fait, l'idée de Thomas, quand on s'est rencontrés, c'est de penser une méthode qui serait pas uniquement un livre pour apprendre, mais qui serait un livre plein d'informations autres que la technique pure. Et moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. Je lui dis, écoute, ça me passionne et je suis très honoré que tu me demandes ça, mais j'aimerais bien parler de l'histoire de l'instrument, l'histoire des instrumentistes et puis glisser des anecdotes, glisser des belles images. J'ai beaucoup de chance, je suis ami avec un monsieur qui s'appelle Raymond Nau. Et monsieur Nau, Raynaud, il est propriétaire en Normandie de la plus belle collection d'harmonica française. Et on a pu utiliser certaines pièces, des documents qu'on a scannés, qu'on a photographiés pour égayer, pour colorer ce bouquin.
C'est ça qui le rend attrayant aussi, parce que la pédagogie, ça peut être très ardu, très sec hein, dans certains cas. Mais là, je crois que tu as choisi en plus la carte de la clarté dans les explications, Philippe. Notamment, tiens, je vais donner juste un exemple, la théorie. J'ai récupéré un petit paragraphe que je vais partager avec vous, amis auditeurs. Ça se trouve, page 15 dans ton ouvrage, au niveau théorie, c'est « L'espace de hauteur qui sépare deux notes est appelé un intervalle. On mesure les intervalles en utilisant une unité appelée le ton. L'intervalle le plus court utilisé en musique occidentale est le demi-ton. » On peut pas être plus clair.
Ah, merci.
Je me prends pour Bernard Pivot là, en ce moment, tu vois, c'est le Bernard Pivot de la radio. Et non, mais franchement, voilà, la clarté, la pédagogie, et puis la joie aussi de présenter quelque chose d'attrayant, parce que on va parler de la forme tout d'abord. Il y a une maquette qui est absolument voilà, attrayante, hein, c'est le mot.
Alors ça, c'est une grande chance. C'est une collaboration, un bouquin comme ça, en fait. Mm-hmm. Moi, je menais la barque un petit peu à ma manière. J'écrivais mes trucs et puis je proposais des images. J'envoyais tout ça à l'éditeur Thomas, qui avant qu'il relisait, éventuellement corrigeait. Et puis me proposer des modifs si c'était pas clair. Et puis ensuite, une fois qu'on s'était mis d'accord, il envoyait un graphiste maquettiste, David, qui a fait un travail extraordinaire.
Avec une recherche iconographique très poussée. Enfin,
très, très poussée.
On voit à la fin tous les crédits photos.
Oui.
C'est absolument
hallucinant. Ça représentait un gros boulot qui était absolument passionnant.
Combien de temps en tout ?
Ah là là, c'était... on va dire que c'est un an de boulot.
Seulement un an ?
C'est un an de boulot, ouais.
En faisant plein de trucs à côté, évidemment.
Les six premiers mois, en faisant plein de trucs à côté. Les six derniers mois, en faisant que ça.
Ah ouais ?
Oui.
T'as refusé tous les concerts des six derniers mois.
En fait, je faisais mes concerts. Par contre, j'en ai pas trouvé de nouveaux.
D'accord.
Mais bon, fallait faire un choix. Non, alors, je bénéficiais d'une expérience beaucoup d'années d'expérience. J'aurais été incapable de faire ça il y a 20 ans. Évidemment, tous mes cours. Moi, si tu parlais de la clarté des explications, avec l'expérience, je suis moi-même assez laborieux. Donc, je sais clairement ce qui est compréhensible et ce qui ne l'est pas. Je sais où moi j'ai eu. Je me souviens où j'ai eu des soucis de compréhension. Je sais ce qui m'a embêté. À force de donner des cours, je sais à quel moment mes élèves tiquent, je sais ce qui va leur poser problème. Ça, c'est le temps, l'expérience. Et je savais que certaines choses, il fallait que je m'arrête.
Je vois tellement de quoi tu veux parler. Je vois exactement ça. Et puis, bien sûr, tes fiches et puis ta mémoire t'ont servi à combler le reste. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des étapes, il y a des moments où on ne progresse plus. Et puis, on peut se décourager aussi quelque part. Mais là, je pense qu'un petit peu partout dans l'ouvrage, tu remets en scène le lecteur, surtout en utilisant beaucoup mise en exercice, la mise en pratique. Ça, c'est quelque chose qui est prégnant dans ton livre.
Ah, oui, c'était super important. En fait, on n'apprend pas l'harmonica en faisant des lignes et des lignes de gamme et puis des lignes de pling et des lignes de plank, comme disait la pointe. En fait, il faut jouer des morceaux, il faut jouer des mélodies. Alors, on démarre avec des mélodies, des ritournelles folk américaines, mais attention... il faut pas, c'est des mélodies formidables, hein. Et puis on peut s'amuser avec un harmonica. Le propre de l'harmonica, c'est que, en fait, avec quatre notes, on peut s'éclater pendant des heures. Parce que on respire la musique, on souffle et on aspire, et c'est quelque chose de très très curieux et complètement unique. Et il y a ce phénomène, on a l'impression véritablement de chanter sans chanter. Et puis on apprend, alors une des plus grosses difficultés à l'harmonica, c'est d'apprendre à gérer ses respirations, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est, on n'est pas tous égaux devant ces difficultés-là, mais c'est primordial et c'est très très utile parce que ça, apprendre à respirer correctement avec le ventre, ça sert pas seulement à jouer l'harmonica, ça sert à tous les jours.
Alors il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage qui s'appelle Blues Harmonica, signé Philippe Géhan aux éditions Jean-Jacques Rebillard. Il y a beaucoup de choses, on va commencer par une petite mini-bio te concernant. On peut également retrouver carrément la pochette de tes deux albums avec Bam Bam Tikilik, des conseils à foison, on en a parlé, des exercices, des partitions aussi, parce qu'il faut parfois passer par l'écrit pour la transcription et pour le témoignage et puis ensuite faire apprendre, des anecdotes, ça c'est pas dans tous les ouvrages consacrés à la musique qu'on retrouve des anecdotes, des exemples et puis également des sources sonores à télécharger. Ça, oui. C'est encore quelque chose d'un petit peu nouveau. Il y a Jouer à la manière d'eux, il y a l'histoire de l'harmonica blues, bien sûr, et tu donnes beaucoup de techniques, la respiration, les effets. Enfin, il est impossible, à mon avis, sauf à ne pas vouloir aller plus loin, de ne pas savoir jouer un petit peu d'harmonica après avoir lu tout ce bouquin. Quoi. C'est...
J'espère.
Il faut avoir envie, bien sûr, mais tu donnes envie. C'est ça qui est intéressant.
Oh, super. Bah, c'était l'idée. Ce que je voulais, c'est de pas décourager. Alors il y a eu un gros effort et l'accent a été mis sur la progression, en fait. On a échangé avec l'éditeur pour que ça soit véritablement progressif, et donc à travers des exercices, et puis de temps en temps, bing, on fait une pause, on passe à autre chose, on lit une petite anecdote, on essaie de faire en sorte que ça soit toujours ludique et rigolo pour qu'il n'y ait pas de découragement. Alors, c'était très important, ça.
Et puis encore le côté attrayant de l'iconographie et puis du choix de la maquette, effectivement. Ta pédagogie, donc l'art d'expliquer par l'exemple et par la pratique. Ça me paraît prégnant, vraiment essentiel. Et puis, je voulais qu'on s'arrête également sur cette petite rubrique de 2 pages, Ruin Babin Blues, les blues art players in la France, les Français. Je me suis amusé à tout cocher. Il en manque pas beaucoup, finalement.
Il en manque quand même, malheureusement.
Mais moi, j'ai trouvé la liste relativement exhaustive. On va quand même signaler que pour toi, l'harmoniciste le plus important de la scène blues, celui que tu places tout en haut de la pyramide, c'est Jean-Jacques Milteau.
I ain't gonna work on Maggie's farm no more. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. When I wake up in the morning, fold my hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. It's a shame the way she makes me scrub the floor.
Jean-Jacques Milteau.
En fait, alors je sais que c'est pas un bluesman pur et ça sera le premier à dire qu'il est pas bluesman, je le sais bien. Mais en fait, il est incontournable. Il est impossible de parler d'harmonica blues en France sans parler de Jean-Jacques Milteau. Il a une carrière, il a mêlé les styles, Jean-Jacques. Il a joué du blues, il en a joué de la country. Il joue toujours, il mélange les styles. Il fait du musette, de la chanson. Mais c'est un fanat de blues, un grand connaisseur de blues. Et je sais que c'est pas, il se déclare pas bluesman. Mais quand il est en verve et qu'il joue du blues,
il joue du blues, ouais.
Attention.
Et c'est pas parce qu'il a joué avec autrefois Yves Montand ou par la suite avec Florent Pagny qu'il se rappelle pas de ses racines blues. Moi, je te dirais, la première fois que j'ai entendu Jean-Jacques Milteau jouer, c'était sur un album de 73 ou 14 qui s'appelait New Bluegrass Collection. Tu connais la référence, hein, et là, on n'est pas dans le blues, bien sûr, on est dans le blues, pur bluegrass. Ouais. Il a 25 ans, 74, oui. Il est déjà virtuose, il continue à l'être.
Il était virtuose très très jeune, c'est un phénomène rare et extraordinaire.
Il a 50 ans cet album, tu te rends compte ?
Oui, ouais, c'était son groupe de bluegrass.
Il sort un album cette année encore.
Voilà. Hein. Il paraît qu'il est extraordinaire. Il a joué, et c'est à cette époque-là qu'il a fait un album qui s'appelait Spécial Instrumental, ouais, qui est le premier disque de Milteau, consacré à... C'était chez Harmonia Mundi, le chant du monde.
D'accord.
Et en fait, où il détaillait un petit peu la pratique de l'harmonica. Non, il est incontournable. Et puis en fait, c'est lui qui a amené à l'harmonica énormément de passionnés. C'est lui qui a écrit les méthodes avec lesquelles énormément de gens, dont votre serviteur, avec lesquels ils ont appris. Donc en fait, il est très très important. C'est pour ça que je commençais par lui.
On va dire que Jean-Jacques Milteau est à l'harmonica, ce que Marcel Dadi est au picking guitare, peut-être.
On peut dire ça.
Et puis, bien sûr, tu en cites tout plein d'autres. Alors, en photo, on voit pêle-mêle Benoît Blueboy, que tu citais tout à l'heure, Elmore Jazz, Deon Emen, Greg Slab, Jean-Marc Henault, Jean-Jacques Milteau, bien sûr, Marco Ballan, Nico Owen Toussaint, Pascal Bacot, Michael Young, qu'on évoquait tout à l'heure, Thomas Troussier, dont on a parlé, Vincent Bucher, ou Youssef Remanna, qui était l'invité de l'émission il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et puis, il y a une fille en photo, la pauvre Rachel Place, toute seule. Tu n'as pas trouvé d'harmoniciste femme en France en dehors de Rachel ?
Il y en a pas beaucoup, mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Il y a Christelle Berton.
Il y a Christelle Berton qui est... Alors, j'ai été contraint de faire évidemment des choix. Ouais. J'ai tenté de me resserrer véritablement, les gens qui avaient une pratique très blues, enfin qui jouaient du blues, ouais, avant tout.
Ouais.
Il y a d'autres harmonicistes que je cite. Je ne cite pas tout le monde, mais je cite des gens aussi comme Michel Herblin, qui est un virtuose hors norme, mais qui n'est pas un harmoniciste de blues, qui brasse énormément de genres. Pareil, qui est convaincant quand il joue du blues, évidemment, mais je me suis quand même recentré sur les harmonicistes de blues.
Sébastien Charlier aussi, qui est plus...
Sébastien Charlier aussi, qui est jazz, que je cite aussi. C'est des harmonicistes-là, David Herzhaft, qui sont des virtuoses incroyables, phénomènes hors du commun, mais qui sont plus des harmonicistes de jazz, une musique variée. Rachel, pour le moment, est la plus médiatisée. C'est pas la seule harmoniciste de blues en France. C'est la plus médiatisée. Il y a de plus en plus de femmes qui jouent du blues. D'ailleurs, j'ai moi-même de plus en plus de femmes en cours.
Très
donc,
bien.
C'est plutôt un bon signe, à mon avis.
C'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Il y a un harmoniciste que tu portes également au Pinax, si on exclut bien sûr Jean-Jacques Milteau, que tu places tout en haut, c'est Vincent Bucher.
Thank you.
Vincent Buchet, parce que lui aussi, il décloisonne la musique un petit peu à ta manière. Hein.
Bah oui, Vincent,
ça fait des années qu'il se produit avec Tao, par exemple, mais il a fait des tas de collaborations. En plus, un type extrêmement chaleureux et gentil, enfin humble aussi. Vincent Buchet, quand on voit son parcours, quand on voit avec qui il a joué, on pourrait se dire, ce garçon-là, mais il faut prendre rendez-vous, quoi, pour aller lui parler. Mais non.
Il est aussi simple et gentil qu'il est talentueux, c'est pour dire.
C'est ça.
Il est phénoménal, Vincent. D'ailleurs, il n'a pas ce désir, peut-être. Je me trompe peut-être, alors je ne sais pas s'il nous écoute, Vincent. J'ai l'impression qu'il n'a pas le désir de se faire reconnaître au-delà. Son envie, c'est de jouer, et de jouer le mieux possible, et de jouer, de collaborer. Et en fait, il colore de son harmonica complètement magique énormément de disques. Alors, c'est l'harmoniciste de la scène africaine, on va dire. C'est collaboration avec des artistes africains, Boubacar Traoré, énormément de gens de cet acabit. C'est un phénomène, il a un langage, il a un phrasé unique. Unique au monde, personne joue comme Vincent, personne n'a joué comme lui avant. J'en ai parlé une fois avec Matthew Scholler, qui est un harmoniciste chanteur de Chicago, qui est un ami de Vincent, mais qui, et Matthew me disait, pour lui, c'est un véritable extraterrestre. Il dit, aux États-Unis, enfin, tout le monde nous l'envie, en fait. Vincent Buchet, c'est juste un homme à part, et moi, je suis béat d'admiration. Et puis, c'est un grand chanteur. Très bon chanteur, Vincent, je trouve. C'est très très bon chanteur.
Tu viens d'écrire Vincent Buchet, mais à l'exception des collaborations avec les artistes africains, on pourrait parler un petit peu de la même manière d'un certain Youssef Rebadna.
Ah bah oui.
Hein, c'est beaucoup de points communs. D'ailleurs, c'est aussi un grand ami de Matthew Scholler.
Oui. et Vincent et Youssef ont beaucoup en commun aussi.
Ah oui.
Youssef, c'est un... Ouais, oui, bah, quel chanteur. Well, it's made and the light is fading. If I'm sitting here alone, I found your little note this morning, and I'm waiting by the phone. Oh, I've been waiting for you, baby, until you change your mind. I've been waiting, baby, 'cause one day you'll be mine. I know I've got a chance in a million to get us back on the track. This time I know I wanna get you back. Oh, I'll be waiting until you change your mind. Yes, I'll be waiting for you, baby, 'cause one day you'll be mine. Youssef, quel chanteur! Quel chanteur! Quel chanteur!
On l'écoute, on pourrait penser à Kim Wilson.
Ah là 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 là! Moi, c'est chanteur. Et puis, harmoniciste dans une veine plus, peut-être plus traditionnelle, je ne sais pas, mais il est, c'est un des types les plus convaincants que j'ai pu voir sur scène. Moi, il me. Et puis,
en plus. Avec beaucoup d'humour, en plus.
C'est une crème d'homme, il est tellement drôle, en plus. Ouais. Ouais, c'est Youssef Rehmanna, allez voir Youssef. C'est...
Le livre s'appelle Blues Harmonica, il est signé Philippe Jehan. Il y a également des audios à télécharger pour continuer à apprendre l'harmonica. J'ai l'impression qu'on peut apprendre vraiment à son rythme, hein, parce que voilà, un bouquin, c'est beaucoup moins contraignant qu'une série de vidéos. On se dit, ah putain, j'en suis à la leçon numéro 5, demain c'est la leçon numéro 6, je suis pas prêt. Non, là tu le prends, tu le reposes, tu le reprends trois jours après.
Puis on peut piocher. On peut piocher dans différents chapitres, aller voir ce que je dis, quelques mots sur l'amplification, puis après revenir aux exercices de base.
C'est un peu comme un dictionnaire, voilà, on peut le feuilleter à sa guise, revenir en arrière. J'ai une petite formule à te soumettre, Philippe, par rapport à ta démarche justement de pédagogue, et puis aussi pour avoir écrit ce livre. Est-ce que pour toi l'important c'est comprendre pour jouer ou jouer pour comprendre?
Non, je pense qu'il faut commencer par jouer. Pour jouer, j'embête beaucoup mes élèves. Plus ça va, plus j'embête mes élèves, entre guillemets, hein, attention. Hein. Mais en fait, je sais que certains d'entre eux sont un petit peu gênés par cette pratique qui consiste à se lever, à taper des mains et à danser avant de souffler dans l'harmonica. Et en fait, je leur demande, pour moi, la virtuosité, la précision, le nombre de notes, tout ça a peu d'importance à partir du moment où il y a de la danse, en fait, du groove, du swing, appelez ça comme on veut. Alors, passer d'un pied sur l'autre, taper des mains, claquer des doigts, faire une note, deux notes, peu importe, faire deux, trois trucs comme ça, que ça swing un peu. Et puis hop, c'est parti. Après, il faut jouer. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, pour jouer plus et apprendre plus vite, il faut comprendre un petit peu quand même. Comprendre un peu.
Et tu aides à comprendre, et d'ailleurs tu réunis tout un tas de conseils et de suggestions vers la fin de l'ouvrage. Je ne vais pas résister au fait de te citer à nouveau, Philippe. Moi, il y a un paragraphe que j'ai trouvé désopilant, surtout avec ma petite expérience de musicien, c'était « Si vous êtes invité à un bœuf, prenez votre temps avant d'intervenir, écoutez bien le morceau, essayez de comprendre sa structure et d'identifier clairement le rythme, est-ce binaire ou ternaire, chantez les croches dans votre tête pour bien préparer vos phrasés, essayez d'intervenir par petites touches, prenez un solo uniquement si vous y êtes invité. Vos accompagnements doivent être légers et discrets. Et à moins que vous ayez envie de ne jamais être invité à jouer de nouveau, ne prenez jamais de solo pendant la partie chant. » Ça, c'est du conseil pur jus. Je veux dire, quand on n'a jamais fait ça, on n'y pense pas forcément, mais on ne joue pas n'importe comment, on ne joue pas n'importe quoi quand on est en groupe, c'est bien ça.
Oui, c'est ça, ouais. Mais j'en ris, mais je sais que jeune, c'était...
Ça t'est arrivé ?
Quand ça nous a tous arrivé, je pense. En fait, on n'est pas très à l'aise quand on arrive dans un bœuf. On a envie de faire bien.
Surtout qu'on arrive, les mecs sont chauds, ils ont joué pendant 2 heures. Ouais, en général, c'est en fin de concert. Toi, t'as juste applaudi pendant 2 heures. Et là, tu piaffes d'impatience de les rejoindre et ils sont chauds comme braise. Et toi, t'es à 37, quoi. C'est
difficile, mais c'est une histoire de respect. Moi. La musique en général, les chants, le jeu en groupe. Plus on est nombreux, moins il faut jouer, de toute façon.
Alors, ce livre Blues Harmonica, donc des éditions Jean-Jacques Rébillard, on peut le trouver un petit peu partout. Enfin, j'ai trouvé quelques références comme ça sur la toile. Attention, il coûte 27 euros. N'allez pas le payer 36 euros comme j'ai vu ailleurs. Il y a des gens qui se. Il y a des intermédiaires. C'est un peu ce que nous disent les agriculteurs en ce moment.
Oula.
Je te citerai la source tout à l'heure. Okay. Il y a également une version à 58 euros et là, dans laquelle il y a un honneur spécial. 20. Ah, oui. C'est l'harmonica que tu préconises pour démarrer.
Ouais, pour démarrer.
Et même pour continuer.
C'est un super harmonica qui coûte pas très cher, qui marche à merveille. Si vous avez besoin d'être assuré, sachez que Nico N. Toussaint joue uniquement avec des Special 20. Et
c'est vrai.
On ne peut pas dire qu'il n'est pas le son. C'est un super harmonica. Alors, il y a la méthode, elle est disponible éventuellement avec un petit diatonique ou un Special 20 d'Itrou.
Et puis, j'imagine que pour les auditeurs qui sont basés à Caen, on peut le trouver chez Bonaventure.
Bonaventure, Musique Eman. Voilà. Et puis, sinon, il est dans le réseau de la librairie musicale qui, malheureusement, n'est pas en très bonne forme. Enfin, dans les magasins d'instruments de musique, sur le net, sur des plateformes que je ne citerai pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de notre aide. Et puis, de temps en temps, comme c'est... J'ai la chance d'avoir été épaulé par une maison d'édition qui a bien voulu faire un très beau livre. Et les librairies généralistes sont également intéressées.
D'accord, donc ça veut dire qu'on pourra le trouver chez Guillaume, etc.
Petit à petit, c'est en train de se mettre en place. On regarde ça, mais ouais.
On n'est pas obligé de faire ses achats que sur la toile, effectivement. Ouais. Philippe Géal, merci. Les 30 secondes qui arrivent sont pour toi. Si tu as des choses à dire à nos auditeurs pour les convaincre d'acquérir peut-être cet ouvrage et puis les intéresser encore davantage à l'harmonica, la question est ouverte.
Non, moi je pense que l'harmonica, c'est un instrument extraordinaire parce que même si vous jouez de la guitare, de la basse ou de la batterie, vous pouvez même vous munir d'un porte-harmonica et puis faire quelques notes, juste quelques notes.
Ouais.
Alors ça, c'est quand on est musicien, qu'on joue en groupe. Mais sinon, tout seul dans votre poche, vous allez au bord de mer, vous oubliez le reste du monde et vous faites une petite mélodie, la plus simple du monde. Et ça, vous réchauffez vos mains avec une petite mélodie et puis vous oubliez votre tracas. Ça, c'est formidable, l'harmonica, pour ça.
Je conclurai en disant que je connais quelqu'un qui joue de l'harmonica depuis très longtemps et qui aurait bien besoin de tes conseils. Tu devrais envoyer un exemplaire du bouquin à Bob Dylan, je trouve.
Oui, alors, évidemment. J'ai toujours été...
L'avocat du diable, pardon.
Oui. Non, mais ça revient toujours, cette histoire. L'harmonica folk. Ceci dit, un harmoniciste virtuose sur les chansons de Bob Dylan prendrait trop de place. Donc,
c'est vrai.
Il faut aller droit à l'essentiel, juste la mélodie du chant d'avant tout.
Et puis rappelons quand même qu'il a eu le prix Nobel de littérature en 2016.
Oui. Non, mais je pense que l'harmonica pour ça c'est magique parce qu'avec deux notes dans le bon contexte ça marche. Puis après ils peuvent devenir virtuoses entre les mains de Vincent Buchet et puis là faire des étincelles.
Je crois savoir que ton livre a eu de bons échos, notamment auprès de Nico N. Toussaint. On l'a vu sur la toile il n'y a pas très longtemps. Vincent Buchet également, qui a eu d'autres retours depuis.
J'ai eu d'autres retours. Il y a Paul Lassé, qui est un harmoniciste qui est basé dans l'Est et qui est un formidable pédagogue, qui a formé des centaines de gens et qui m'a fait dans son blog un texte dithyrambique et je suis. Complètement. Je suis honoré et extrêmement heureux par tous ces retours. La petite vidéo de Nico N est extraordinaire.
Quand j'ai vu ça. Wow.
C'est vraiment un bonheur pour moi d'être reçu de cette manière-là par mes illustres pères. C'est formidable.
Merci Philippe, à très bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Au revoir.
Fatigué, hommes la fatigué. Fatigué, petit femme la fatigué. 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 Fatigué, nous sommes fatigués. fatigué, petit femme fatigué. 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 Fatigué, ce jeu qui s'a raison. Fatigué, ce petit jeu qui s'a raison.
Merci à Philippe Gillane pour cette interview au cours de laquelle on a écouté Hugo Frey, Mes vieux trucs de cow-boy, Larry Adler avec le Grisby. On est en 1953, figurez-vous. Chris Wilson avec Walking the Dog, Sonny Terry pour Whooping the Blues, Sonny Boy Williamson pour Bye Bye Bird, Little Walter avec Duke, également Billy Branch, Nobody But You, Paul Delay avec Road Myself Crazy, Soufflant Manchot avec Parlez-nous à boire, Tupelo Music Club avec Harlem River Blues et Bam Bam Tikelic avec Fatigué. Trois formations dans lesquelles évolue Philippe Gillane. Également Patrick Verbeek avec Bluesy Lady, Hot Rod 56 Come Back to Me, Dom Ferrer avec Ain't We Gold. Et puis en filigrane, Paul Lasset nous faisait quelques notes de Delta Blues. Également Jean-Jacques Milteau avec Mike Anderson pour Maggie's Farm. Le New Bluegrass Connection dans lequel évoluait Jean-Jacques Milteau, c'était pas en 73 ou 14, c'était en 75 avec Some Go Home. Vincent Bûcher et Tao Ravao pour Rano Velo. Le French Blues All Star dans lequel Youssef Rebana tient l'harmonica avec I'll Be Waiting, et puis Bam Bam Tikelic qu'on a écouté en entier, le titre Fatigué. On se retrouve samedi prochain le 9 mars avec Marquis Knox pour sa carrière et son actualité, Olivier Gall pour la programmation du printemps 2024 à la traverse à Cléon, et le Beatles Sanctuary numéro 44 par Jackie Emery. Salut, bye bye. Same old